Ben, d'ici la fin de notre émission, nous allons être en mode baseball. Pour la première fois, ces matchs préparatoires qu'on amène ici à Montréal ne sont pas présentés le week-end. Ça explique peut-être le fait qu'il va y avoir un petit peu moins de monde. Faut dire aussi que les adversaires, les Brewers de Milwaukee, attirent peut-être moins que les Red Sox de Boston ou les Yankees de New York ou d'autres formations du genre. Il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir à peu près 25 000 billets vendus pour chacune des deux parties qui sont présentées, celle de ce soir et celle de demain. Et de plus en plus, on entend cette rumeur. C'est comme une rumeur. Elle était lointaine au début. Elle semble devenue maintenant plus précise d'un retour possible du baseball majeur à Montréal. Philippe Allou, qui a laissé sa marque ici à Montréal, y croit. Il n'y croyait pas nécessairement au début. Il a dit, j'entends de plus en plus cette rumeur qui est en train de se préciser comme quoi le baseball pourrait revenir à Montréal. Rassurant aussi de voir que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a spécifiquement fait référence à la station de train, le fameux REM, qui va être bâti, en disant ça va être à l'extérieur. Rassurant de savoir que deux entreprises comme Devimco et puis Claridge sont en train de se parler et de dire il y a moyen de trouver notre compte et avoir un stade dans la portion sud-ouest de Montréal. Jérémy Filosa et Alex Agostino vont décrire et analyser le match de ce soir. Jérémy, bonjour.
Salut, Paul.
Bonsoir, Alex.
Bonsoir, Paul.
Et j'ai invité celui qui nous a fait cadeau d'un très beau livre qui paraît ces jours-ci. Je vous le dis, c'est un livre incontournable. Baseball PQ, une histoire illustrée. Ça remonte au Royaume de Montréal, ça passe par le début des expos à Montréal, au célèbre Parc Jarry. Et c'est un livre magnifique qui paraît aux éditions du journal. Et c'est Marc Defoy, journaliste depuis 1972, au journal depuis 1982, qui est l'auteur de ce livre, Baseball PQ. Bonsoir Marc.
Bonsoir Paul.
Je commence avec toi Marc. Je savais pas que tu avais grandi à proximité du stade des expos, le Parc Jarry.
Non seulement, Paul, j'ai grandi à proximité du stade Jarry. J'y ai joué avant l'agrandissement, avant les travaux d'agrandissement en 1900, durant l'hiver 68-69. Il y avait le petit stade là qui est toujours là, la portion en demi-lune, en ciment. Et ce stade-là avait été bâti en 1961. Et j'y ai disputé des matchs à titre de voltigeur de centre dans les rangs Pee-Wee en 1966. Et au retour de l'école, on arrêtait toujours vers les 4h15 pour aller voir l'entraînement des Alouettes. Les Alouettes s'entraînaient au stade Jarry. Et la première version, crois-le ou non, la première version des Carabins de Montréal, là, au début des années 60, là, les Carabins disputaient leur match et faisaient leur entraînement également à ce stade, ce petit stade Jarry là, dans les années 60. Donc, plein de souvenirs pour moi.
Tu vois, Marc, l'avantage d'avoir notre âge, c'est-à-dire le tien et le mien, par rapport à Jérémy puis à Alex, ils ont pas... Non, mais sérieusement, Jérémy, Alex, Marc, il l'exprime tellement bien. Moi, j'avais des frissons en regardant ton livre, Marc. J'ai regardé les images du 8 avril au Shea Stadium, quand Dan McGinn, un lanceur, a cueilli le premier circuit de l'histoire des Expos pour donner une victoire de 11-10 aux Expos face aux Mets. Je suis capable de me souvenir de tous les maudits programmes doubles que je suis allé voir.
Oui.
Combien ça coûtait? La plupart du temps, j'étais dans ce qu'on appelait les bleachers, les estrades à prix populaire. Jérémy et Alex n'ont pas connu ça.
Ben, moi, j'ai une photo quand même au Parc Jarry. J'étais dans les bras de Gary Carter, mais je pense que j'avais un an, même pas, peut-être six mois.
Paul, moi, mon père, lorsqu'il est arrivé d'Italie, il restait là au bord de la rue du Parc Jarry. Et je me rappelle pas de 69, mais Jérémy, c'est le jeune de la gang ici.
Mais toi, Alex.
Moi, j'allais voir les parties au Parc Jarry, dans la région de Villeray, parce que ma grand-mère demeurait encore là, mais mon père. L'immigrant italien, c'était pas le soccer, c'était le hockey, c'était Doug Harvey, puis c'était les Expos, puis les Royaux. Il a adoré ça. Puis Alex, peut-être qu'en 72-73, je commençais à aller au Parc Jarry.
OK, Alex, toi donc, ton plus lointain souvenir, c'est 72-73?
Moi, je te dirais, c'est ça. 72, là, je commençais à aller au Parc Jarry. J'avais un oncle un peu plus vieux qui m'amenait à toutes les parties d'ouverture depuis 72-73, en passant par le stade olympique par la suite. Je me rappelle, tu sais, vraiment de... des Larry Lynch, des Pepe Manguel, je pense que c'est plus dans les années 74-75, ouais. Barry Foote avant Gary Carter.
Ouais, je te dirais,
là, c'est ça, 8, 9, 10 ans, puis après ça, ça a été la folie de Carter, Dawson, puis toute cette gang-là qui sont venus par la suite. Mais j'adorais aller, j'allais souvent au Parc Jarry. J'écoutais Marc, moi aussi, j'ai des frissons, j'ai hâte de voir le livre. Moi, l'histoire du baseball, ça me fait triper bien raide. Et juste, j'allais jouer avec mes cousins à ce parc-là. On allait se baigner dans ce parc-là. Parce que toute ma famille, lorsque nous, on a déménagé à Saint-Bruno, on était un petit peu les outsiders. Mais toute ma famille demeurait encore dans le coin et on passait beaucoup de nos fins de semaine au Parc Jarry.
Toi, Jérémy, tes premiers souvenirs, de quelle édition des Expos tu te souviens là en disant « c'est là que j'ai attrapé la piqûre ».
Bien, c'est 1981. J'avais 6 ans, puis je me souviens exactement où j'étais. J'étais en deuxième année et la professeure avait amené une télévision dans la classe et on avait regardé les matchs éliminatoires cette journée-là, le match éliminatoire des Expos en pleine classe, en plein après-midi. Donc, je me souviens exactement comment était vraiment le circuit de Jerry White cette année-là. C'est là que je suis devenu un accro. Puis mon père, un peu comme le père d'Alex, est arrivé d'Italie. Il était mécanicien dans un garage tout près du stade du Parc Jarry. Et son patron avait des billets de saison. Mon père ne connaissait pas du tout le baseball, mais occasionnellement, il lui refilait des billets et mon père allait au Parc Jarry voir les Expos. Il est tombé en amour avec ce sport-là, avec cette équipe-là, puis il m'a transmis sa passion.
Bravo! Mais là, 81, Marc, il a bien précisé que c'était le circuit de Jerry White et pas celui de Rick Monday. Parce que celui de Rick Monday, Blue Monday, il a fait mal. Marc, c'est drôle parce qu'Alex, il disait 73. Puis dans ton livre, on retrouve une belle photo couleur de Steve Rogers à ses débuts, le lanceur des Expos. Il y a eu comme 4 ans après la naissance des Expos, une saison 73 où les Expos étaient dans le coup.
Incroyable. Écoute, tu dois te rappeler, Paul, le stade Jarry n'était plus assez grand. Contenait 28 000 sièges et on avait placé des gens derrière les clôtures au champ extérieur.
Oui.
Je sais qu'il y a eu un match au mois de septembre. Il y avait eu une foule de 31 000 personnes. C'était quand même incroyable. Là, les Expos étaient dans la course au championnat. Cinquième année. Faut dire aussi que bon, la division S cette année-là, les équipes n'étaient pas très fortes. Je pense que les Mets qui avaient remporté le championnat là, avait connu une saison de 2 matchs, je pense, supérieurs à 500. Elle avait remporté quelque chose comme 82 ou 83 victoires. Et les Expos ont terminé la saison avec 79 victoires. Et Steve Rogers avait été rappelé au mois de juillet. Puis Steve Rogers avait gravi les échelons très rapidement, même s'il avait été repêché en phase secondaire, non pas en phase primaire. La phase secondaire du repêchage de 1971, je pense, ou 70, il avait monté très rapidement. Il était plus âgé aussi. Et il avait connu une saison quand même incroyable. 10 victoires, 5 défaites.
Ouais.
Je me rappelle pas de sa moyenne à points mérités, mais suffisamment pour, malgré qu'il n'avait pas joué toute la saison, il avait terminé deuxième au scrutin pour le titre de recrue de l'année derrière John Montefusco.
Giants
de San Francisco. Donc, deuxième, il fallait quand même le faire. Là.
Non, il a connu des... D'abord, premièrement, ça a été un des grands joueurs, vous allez être d'accord. Même Jérémy et Alex, un des grands lanceurs de l'histoire des Expos, évidemment, Steve Rogers.
Ben moi, ce que je trouve dommage dans le cas de Steve Rogers, c'est qu'on se rappelle son circuit, le circuit qu'il a accordé à Rick Monday. Mais on se rappelle pas, on parle pas de ses 2 victoires en série de division contre Steve Carlton des Phillies de Philadelphie.
Ouais.
On parle pas de sa victoire dans le 3e match de la série de championnat contre Jerry Royce. Tu regardes sa fiche en 1981, dans les séries, 3 victoires, 1 défaite, moyenne de points mérités de
0,98.
Oui, oui. On s'en rappelle malheureusement, parce que sans Rogers, les Expos n'étaient pas là. Tu sais, c'est comme Bill Buckner avec les Red Sox, la balle qui est passée entre les jambes.
Ouais.
C'est un gars qui a 2800 coups sûrs, il était un étoile, mais tout le monde se rappelle de ça. Mais Rogers avait été, c'est probablement le premier, après Baylor Moore, qui n'a pas eu une longue carrière, mais un joueur développé par les Expos, repêché, puis a été là longtemps, dans les bonnes années puis les moins bonnes.
Sur la page couverture de ton livre, Marc, je suis tellement content, je l'aimais beaucoup, lui. Bob Bailey. Le numéro 3. Et à chaque fois qu'il se présentait au Parc Jarry, Fernand Lapierre, l'organiste, jouait « Won't you come home, Bill Bailey? »
Effectivement.
À chaque fois. Et question de te remercier de nous avoir donné ce beau livre-là, qui va être disponible dans 2 jours.
Oui.
Moi aussi, je voudrais t'offrir un petit cadeau, Marc, ce soir. Puis évidemment, je le fais pour Jérémy et Alex, parce qu'Alex est en âge aussi de se souvenir de cette ambiance qu'il y avait lorsque Fernand Lapierre touchait l'orgue. Et on va aller à la pause là-dessus. Écoutez bien. Nos invités sont au Stade olympique. Marc Defoy, qui signe ce livre magnifique, aussi en collaboration avec Roger Brudotte, une histoire illustrée, Baseball PQ. Vous allez retrouver là-dedans des souvenirs incroyables. Et puis Alex Agostino et Jérémy Filosa sont prêts à nous décrire le match de ce soir entre les Brewers et les Blue Jays de Toronto. Je vous pose la question en disant, le retour du baseball à Montréal, c'est déjà arrivé aux États-Unis que des franchises avaient perdu, c'est-à-dire une ville avait perdu sa franchise, elle est revenue. Je donne un exemple. La première année où les Expos sont entrés dans la Ligue, c'était l'année où les Padres de San Diego, les Royals de Kansas City et les Pilots de Seattle se sont amenés. Seattle, le baseball est parti, mais il est revenu avec les Mariners. Donc, ce ne serait pas une première là, si le baseball revenait à Montréal.
Non, écoute, Milwaukee a retrouvé son équipe aussi, Washington aussi éventuellement. Donc, non, ce serait un naturel. Mais aujourd'hui, Paul, on a eu des nouvelles importantes concernant le retour des Expos. Deux nouvelles vraiment qui changent un peu la donnée. Le fait que la station de train, le REM, ce serait réglé là, d'une façon ou d'une autre, que l'arrêt soit exactement au stade ou pas, on pourrait en ajouter une. Donc, la mairesse a dit aujourd'hui que ce n'est plus vraiment un problème. Et l'autre, c'est que, justement, on est prêt à aller de l'avant du côté de Devimco et aussi de Claridge pour travailler ensemble dans le but de développer ce terrain-là. L'entente n'est pas officialisée, mais on nous dit que ça pourrait l'être dans les prochaines semaines. Et M. Bronfman, qui nous a dit sur le terrain tout à l'heure, la prochaine étape, c'est l'achat du terrain. Et on parle ici de quelques mois. Dans quelques mois, alors, il prendrait possession du terrain. Là.
Alex, est-ce que tu te sens fébrile à l'idée du retour du baseball professionnel à Montréal?
À chaque début de saison, je me sens fébrile pour le baseball. Et à chaque fois que je me présente ici au Stade olympique, puis je vais être honnête, c'est l'année passée, c'est la cinquième ou sixième fois. Depuis un an, je me promène partout. Puis là, je reviens ici, puis c'est comme... C'est pas un rêve, c'est véridique. Puis j'ai tellement confiance en Steven Grofman et son groupe. Je regarde ce qui se passe à travers le baseball majeur. L'argent se promène partout. Tout le monde est capable d'avoir une équipe. Si Milwaukee, Seattle, Cincinnati, Pittsburgh ont des équipes du baseball majeur, ils n'ont peut-être pas des masses salariales de 250 millions, mais ils ont une chance de gagner. Je pense que Montréal est une ville qui est capable d'accueillir, avec les bons propriétaires, quand tu traites tes partisans de la bonne façon, un bon groupe de marketing. Puis il y a tellement de bons hommes et bonnes femmes de baseball à travers l'Amérique du Nord qui œuvrent dans le baseball majeur. J'adore le titre du livre à Marc, Baseball PQ. Il y a tellement de monde qui pourrait faire partie de cette aventure-là, puis on serait fiers de cette équipe-là pour faire revivre ce qu'on a parlé tantôt.
Marc, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Est-ce qu'on les appelle les Expos, Marc?
Bonne question, Paul. En 1968, lorsque l'équipe était, on a obtenu la concession, c'était normal. Hein? 50 ans plus tard.
Pas sûr?
Je suis moins sûr.
Les gens qui ont été sondés dans le sondage, les gens ont répondu oui.
Oui. Si c'est le désir des fans de baseball, bien, allons-y.
Ben, ça serait le deuxième. Oui, évidemment, ce serait. Parce qu'à Seattle, on les a rebaptisés les Mariners. Alors que quand ils sont amenés en 69, c'était les Pilots.
C'est ça.
Bon, alors donc, il est peut-être normal de changer de nom. Mais l'important, c'est que l'équipe revienne, non?
En plein ça. Ben, moi. Écoute, ça part de... Quand on fait un résumé, là, lorsque Warren Cromarty est arrivé sur la place publique puis a lancé ça dans les airs, on a tous un peu ri. Hein? On a dit, voyons donc, Warren, c'est un bien bon gars, c'est un bien bon Jack, mais il rêve en couleur. Mais là, il a dit, ça va nous prendre un frappeur, un gros frappeur.
Ouais.
Ben, le gros frappeur, c'est Steven Bronfman et
son
équipe.
Avec un nom de famille comme ça, là, ça a créé tout de suite un effet. Il nous reste à peine 30 secondes. Même Felipe, il croit. Felipe l'a dit en fin de semaine. Il dit, j'entendais toutes sortes de rumeurs. Je croyais pas ça. Maintenant, je suis de plus en plus convaincu. Jérémy, Alex, on vous écoute.
Oui.
Marc, bravo. Bravo, vraiment. C'est un ouvrage. Ça paraît que ça vient du cœur. cet ouvrage-là. Baseball PQ, une histoire illustrée. Marc Defoy, merci.
Merci.